9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serran, qui n'est toujours pas en direct de Doha, vous salue, auditrices et auditeurs. Et comme tous les samedis, nous avons avec mon camarade Philippe Robichon le plaisir d'être parmi vous pour vous permettre, durant une petite heure, d'exposer vos tracasseries juridiques et ou judiciaires. Et nous tenterons de vous apporter des solutions. Ah, pardonnez-moi, on me dit dans mon oreillette que la radio envisage peut-être, mon cher Philippe, de nous envoyer à Doha, mais pour la finale de la Coupe du Monde, si ça c'est pas une bonne nouvelle du samedi matin. D'ailleurs, message aux bien-pensants qui boycottent soi-disant la Coupe du Monde, vous manquez un événement extraordinaire, tant pis pour vous les tâches, cette Coupe du Monde est extraordinaire car les stades sont juste magnifiques et quel plaisir d'entendre au début de chaque match l'annonce de l'hymne national d'abord en anglais et ensuite en arabe. Mais régulièrement, on a des émissions qui nous parlent de l'impact écolo de cette Coupe du Monde, qui nous parlent des victimes sur les chantiers, de leurs conditions de logement, sauf que il ne me semble pas avoir un jour vu un quelconque reportage sur les étrangers que la France a fait venir en charter ou en paquebot pour construire les infrastructures de ce pays. Il ne me semble pas avoir vu un jour un quelconque reportage sur les conditions de logement de ces étrangers en France, étrangers qui vivaient dans des bidonvilles, des baraques en tôle, sans eau courante, sans électricité, comme à Nanterre par exemple. Il ne me semble pas avoir vu un jour, un quelconque reportage quantifier le nombre d'étrangers décédés sur vos chantiers. Alors avant de donner des leçons au Qatar, faites en sorte d'avoir, comme dirait l'autre, le cul propre aussi. Vous me passez l'expression, mon cher Philippe. Cette Coupe du Monde est surtout extraordinaire car les grandes équipes traditionnelles ont été malmenées. Élimination de la Mannschaft, de la Belgique. Espagne, Portugal, pas éliminés, mais battus, respectivement par le Japon et la Corée du Sud. Qui aurait pu imaginer les Japonais battre la Roja? Qui aurait pu imaginer le Cameroun battre le Brésil? Bon, heureusement que malgré cette victoire, le Cameroun n'ira pas en huitième de finale. Alors, je sais que c'est mesquin, mais la défaite de l'Algérie contre le Cameroun, ça passe toujours pas. Bon, je suis méchant, le Cameroun a bien joué et aurait mérité d'aller en huitième. Précisons également que le Maroc a fait un très beau parcours. Par contre, message aux supporters marocains, si vous pouviez ne pas foutre le hala à chaque fois que votre équipe gagne, ce serait quand même une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé de mettre la Belgique à feu et à sang en cas de victoire. Prenez l'exemple des Japonais. Leur équipe gagne et le Japonais reste modéré, même quand il exprime sa joie. Mais l'actualité, ce n'est pas que la Coupe du Monde, c'est aussi apprendre que la France est donc définitivement devenue un pays du tiers-monde, car un pays qui te prépare à des coupures de courant, un pays qui te demande, même quand il fait froid, de ne surtout pas te chauffer, un pays qui, à cause du prix de l'électricité, oblige des secteurs entiers à mettre la clé sous la porte, c'est vraiment un pays du tiers-monde. Mais bon, hein, tant que la France continue de soutenir l'Ukraine, car tout ce qui se passe, c'est quand même à cause d'un pays dont tout le monde se battait les burnes il n'y a pas si longtemps, tant que la France continue de soutenir l'Ukraine, alors c'est bien, la France, vous êtes sur le bon chemin, et quand vous aurez les deux genoux à terre, vous demanderez peut-être de l'aide à l'Ukraine, pays de corrompus. Allez, que vous soyez fouteux ou pas, que vous soyez soutien de l'Ukraine ou pas, n'hésitez pas à nous appeler 01 53 48 3000, posez toutes vos questions, émissions sous le contrôle de notre arbitre international, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Maître Serran, tous les samedis 9h-10h sur FM, du coup j'en tousse, Maître
Serran.
Ouais,
hein.
Ouais. En fait, alors... tousser. Non, ça sent le sapin, c'est pour ça.
Ah oui, mais alors ça sent le sapin.
Ouais, ça veut dire quoi? C'est pour ça que
ça sent le sapin.
C'est, voilà, moi... c'est l'épine de sapin, parce que vous êtes parfumé à l'épine de sapin, Maître Serran, il faut le dire.
Mais quel est l'intérêt de dire ça?
Bah, d'abord, les gens doivent savoir que vous sentez le sapin.
Alors, je sens le sapin, mais après, au bout d'un moment, ça sentira vraiment le sapin. Ouais, c'est un peu ça, ça qui,
non, mais c'est ça
qui m'inquiète. Hein.
Bon, Maître Serran, vous regardez sur quelle chaîne la Coupe du Monde de football?
Bein, et parfois je regarde sur TF1.
D'accord.
Ouais. Mais enfin c'est extraordinaire. Encore une fois, enfin ceux qui font semblant de dire on suit pas la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi.
Les chiffres aujourd'hui, les chiffres d'audience ne montrent pas vraiment de désintérêt.
Oui, bah voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce côté ultra hypocrite. Encore une fois, moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et puis encore une fois, c'est un événement extraordinaire. Et hier Brésil Cameroun, c'était un régal. C'est enfin les Brésiliens sont des tueurs, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une une vraie équipe entre guillemets, et puis leur deuxième équipe c'est aussi une vraie équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueurs de seconde zone pour le Brésil, donc contrairement à la France. On l'a vu la dernière fois.
Les coiffeurs.
Voilà. Mais les Brésiliens, non, il n'y a pas de coiffeurs. Il n'y a que des champions du
d'accord.
monde.
D'accord. Et vous êtes spécialiste de la Pologne aussi ou pas,
Non, je ne suis pas spécialiste de la Pologne, mais... Enfin, voilà, encore une fois, français avant tout. Donc, j'espère que la France va nous faire honneur. Maintenant, le problème avec les Français, c'est comme avec Yannick Noah. C'est-à-dire que quand on gagne une fois, on nous rabâche les oreilles éternellement. Si la France gagne, ce sera la deuxième Coupe du Monde. Ah, merci, camarade.
D'affilée.
Voilà, ce sera la deuxième Coupe du Monde d'affilée. Donc là, on en a jusqu'à, enfin, pour des générations et des générations. Moi, c'est un peu ce côté-là qui me gonfle. Bon. Ouais, le Brésil a gagné X Coupe du Monde. On n'en parle pas plus que ça. L'Allemagne aussi, on n'en parle pas plus que ça. Mais si la France gagne la deuxième Coupe du Monde d'affilée, on en a pour des générations.
Bon, est-ce que je peux savoir ce qu'on vient de vous apporter, Maître Serran?
Un café.
Oui, ben non, c'est ça.
Ouais, un café.
Ça part d'une bonne intention.
Oui.
J'ai vu arriver le breuvage, je n'ai rien dit. Il y a du sucre dans votre café.
Alors ça, je ne sais pas.
C'est vrai que je suis plutôt un amoureux du chocolat, puisque je suis un gamin.
Alors...
Il y a du sucre.
Et vous, c'est sans sucre?
Ah ouais, bien sûr. Café sans sucre. Ah ouais. On va parler d'un document dont je pensais, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'existait plus. C'est le certificat de nationalité française. Alors, c'est pas un document d'identité, le certificat national.
Non. C'est pas un document d'identité. Alors, d'abord, il faut savoir que, par définition.
De nationalité, pardon.
Voilà. Française, ouais. Oui, certificat de nationalité française, un document d'identité, il faut que votre photo soit accolée à ce document pour mériter, entre guillemets, ce titre-là. Le certificat de nationalité française. Alors, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. C'est un document qui va vous permettre de prouver que vous êtes bien de nationalité française. Alors ça peut sembler curieux. On peut se poser la question en se disant bon, parce que je suis né à l'étranger, je suis né en France mais de parents étrangers, donc éventuellement c'est une question qu'on peut se poser. Mais, et je vous le disais également tout à l'heure, moi c'est un document qui a été demandé à mon fils pour sa pièce d'identité et son passeport français. C'est-à-dire que on a demandé, alors je veux dire à mon fils, mais c'est pas le seul exemple, c'est comme ça dans ce genre de situation, alors que je suis né en France, alors que ma maman Lailahma est née en France, enfin voilà, on est tous nés en France, mais on vous demande quand même, c'est ça qui est assez surprenant, de prouver que vous êtes bien français. Et pour prouver que vous êtes bien français, le seul document vous permettra de l'établir, c'est ce fameux certificat de nationalité française. Alors c'est un document qu'on demande auprès du tribunal d'instance de votre lieu de domicile, donc pour ceux qui habitent sur le territoire français. Et puis, si vous habitez à l'étranger, il y a un seul service qui vous délivre ce genre de document. Il est situé à Paris, donc au palais de justice de Paris. Donc, c'est le service de la nationalité des Français nés et qui demeurent à l'étranger. Donc, c'est le seul service qui est compétent. Et au moment où on se parle, encore une fois, l'administration considère que ce document fait de vous, entre guillemets, un véritable, on va dire, on va mettre des gros guillemets, un véritable Français. Sauf que, et ça aussi c'est assez particulier, c'est pas parce que vous avez ce document-là que vous serez considéré comme Français ad vitam aeternam. C'est-à-dire que ce document... il vaut à l'instant T, donc il va vous permettre...
Ah oui, c'est-à-dire que oui, il n'est pas valable.
Non, voilà, il est. Alors, on vous dit conservez-le précieusement, sauf que c'est un document, alors qui est bien pour faire vos documents, qui est bien lorsque vous voulez passer éventuellement un concours dans la fonction publique. Mais on a été soumis très régulièrement à cette situation que je vais vous exposer, c'est-à-dire que l'administration, pour des raisons assez mystérieuses, il lui arrive parfois de reprendre les dossiers pour lesquels elle avait déjà communiqué un certificat de nationalité française. Et après avoir réétudié ces dossiers, il arrive parfois que cette administration envoie, via les autorités préfectorales, un courrier à monsieur ou madame XY pour dire « À telle date, on vous a délivré un certificat de nationalité française qui vous a permis d'avoir une pièce d'identité française, un passeport français. On constate qu'il y a eu une erreur et on vous demande, et parfois même plusieurs années après, on vous demande de restituer votre pièce d'identité française, votre passeport français. Alors les conséquences sont terribles. Moi, c'est arrivé à certains de mes clients, et dont certains étaient d'ailleurs fonctionnaires, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on va vous dire, écoutez, on considère que vous n'êtes pas français, vous avez une quinzaine de jours pour apporter des observations. En règle générale, l'administration reste sur sa position. On va vous fixer une date à laquelle il va falloir ramener vos documents. Mais concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que le français que vous étiez ou que vous pensiez être disparaît. Et donc, vous devenez un étranger, mais vous devenez même pas un étranger en situation régulière. C'est-à-dire que vous devenez un étranger en situation irrégulière. Alors, dans certains dossiers, quand l'administration a fait mea culpa de son erreur, elle a essayé de rattraper ça en invitant l'étranger à venir récupérer un titre de séjour. J'ai des clients qui ont galéré puisque l'administration ne vous invite pas à venir récupérer un titre de séjour. On vous demande de déposer un dossier comme si vous étiez venu de l'étranger une semaine avant. Donc, c'est ce côté un peu compliqué parfois. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais quand ça vous arrive, c'est un coup de gourdin sur la tête. Il faut savoir que cette demande de certificat de nationalité française, il y a eu une réforme qui s'est faite très récemment, puisqu'elle date du 1er septembre 2022. Auparavant, on saisissait le service de la nationalité. Lorsque le service de la nationalité nous faisait le grand honneur de répondre, alors il pouvait répondre rapidement, mais il pouvait répondre au bout de X mois. Et quand on n'était pas, quand le service de la nationalité vous donnait pas raison, vous pouviez formaliser un recours devant, on appelle ça un recours hiérarchique, devant le ministre. Et même chose, c'est-à-dire que le ministre pouvait prendre tout son temps. Et si le ministre nous est le grand honneur de répondre, alors que s'il dit oui, tout le monde est content. Et quand il disait non, fallait saisir le tribunal judiciaire. Tout ça a été chamboulé, ça a été encadré, et c'est tant mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous sollicitez un certificat de nationalité française, le service dispose d'un délai de 6 mois. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez pas eu de retour de la part du service de la nationalité française, on considère que c'est un refus implicite et vous pouvez contester ce refus implicite devant le tribunal judiciaire de Paris. Au moins dans ce type de procédure, en tout cas dans les procédures, la procédure actuelle, on a au moins une visibilité à moyen terme, alors qu'auparavant, on pouvait attendre un an et demi, 2 ans, une éventuelle réponse. Maintenant, on sait que c'est cadré, c'est 6 mois à partir du moment où le dossier est complet. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez rien, vous êtes autorisé à saisir le tribunal judiciaire. Il faut savoir que le tribunal judiciaire vous oblige à prendre un avocat. Donc, vous ne pouvez pas saisir le tribunal judiciaire si vous n'avez pas d'avocat. Il est aussi conseiller, même si ce n'est pas obligatoire, de recourir à un avocat pour formaliser votre dossier de demande de certificat de nationalité française.
Alors, on reviendra sur ce certificat, Maître Serran, dans un instant. Je rappelle que si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, il vous suffit de composer le numéro du standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et Maître Serran est avec nous, comme tous les samedis, il répondra à vos questions dans un instant. Sur le certificat de nationalité, on peut faire toutes les démarches en ligne aujourd'hui?
On peut faire toutes les démarches en ligne, il y a un formulaire particulier, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment uniformisé le truc. Auparavant, il n'y avait pas de règles particulières, il n'y avait même pas de liste de documents à fournir. Donc aujourd'hui, vous avez... alors c'est un formulaire, il faut quand même, entre guillemets, savoir le remplir, mais vous avez un formulaire officiel, et puis si vous ne fournissez pas ce formulaire officiel, votre dossier vous est restitué. Donc,
Il faut suivre...
Il faut suivre à la lettre.
C'est la procédure.
C'est très carré, mais je vous dis, vraiment, la réforme, elle a eu... ce qu'elle a eu d'intéressant, c'est de limiter le timing. Encore une fois, vous saisissez, une fois que le dossier est complet, évidemment, le compte à rebours est parti, il y a 6 mois. Et si au bout de 6 mois, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez passer à autre chose et saisir le tribunal. Alors qu'avant cette réforme, on a des dossiers qui traînaient parfois 1 an et demi, 2 ans. Vous n'aviez pas de réponse. Et tant que vous n'avez pas la réponse du service de la nationalité, vous pouviez pas franchir la prochaine étape. Donc on était tributaire de ça. Et dire à un client, ça fait un an et demi, deux ans, mais j'ai pas de réponse. Et le client, par définition, et c'est normal, ne peut pas comprendre. Donc, on était insistant auprès de ces services. Donc, maintenant, tout ça est terminé. Et puis, le fait d'avoir zappé aussi le recours hiérarchique, ça aussi, ça va être un gain de temps.
Alors, 01 53 48 3000, Maître Serran, je vous propose d'accueillir Zora, qui vous appelle et qui a une question pour vous. Zora, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Zora.
Je me permets de vous appeler, s'il vous plaît, car moi, j'ai entamé une procédure de divorce ici en France.
Oui.
Et en voyant les délais qu'il y a, et ça prend énormément de temps, l'avocate qui m'a dit il faut attendre jusqu'à, au moins, c'est sûr, 2024. Et d'un autre côté, moi, ce que je souhaitais faire, c'est déposer ma demande de divorce en Algérie, comme j'ai fait l'acte avec lui là-bas. Je voulais savoir, est-ce que si je divorce dans un premier temps en Algérie, est-ce que ça va impacter ma demande ici, surtout concernant la pension alimentaire, tout ça, ce qui concerne les droits de mes enfants, ou pas, s'il vous plaît?
Alors, la procédure, vous l'avez engagée quand, Zora?
Ici, en
oui,
France.
En France.
Depuis le juin 2021.
D'accord.
Et l'affaire, elle a été renvoyée deux fois de suite.
Alors, elle a été...
Donc, la première conciliation, ça va être quand on met 23.
Ça a été renvoyé à la demande de qui? De monsieur? De vous? C'est...
La première fois, c'est le juge.
Ouais.
Et la deuxième fois, c'est mon avocate.
Bah, voyez, c'est-à-dire que, voilà, mais il y a aussi cet aspect-là, Zora, c'est-à-dire que les affaires, en vérité, sont maintenant, depuis quelques temps, extrêmement cadrées par les magistrats. Ils font en sorte de rationaliser le truc, c'est-à-dire que ils évitent les renvois multiples et inutiles. Alors, si le magistrat a renvoyé, c'est qu'a priori, il y avait quand même, entre guillemets, une raison particulière, une raison d'agenda. Mais qu'est-ce qui fait que votre avocat a demandé le renvoi de l'affaire? Vous voyez, quand une affaire est renvoyée, ça laisse justement du temps à l'avocat. Donc, c'est quand même embêtant que ce soit votre avocat qui demande le renvoi. Donc, c'est du temps perdu pour vous. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, pour répondre à votre question... est-ce que vous pouvez engager une procédure de divorce au pays? Alors, très souvent, les personnes engagent une procédure au motif que on s'est marié là-bas, donc je vais pouvoir divorcer là-bas. Il faut savoir que les autorités... Alors, vous êtes de nationalité ou de double nationalité franco-algérienne?
Oui, double
D'accord.
nationalité.
Alors, les autorités algériennes vont accepter le dossier, il n'y a pas de difficulté. Ils prononceront le divorce, il n'y a pas de difficulté non plus. Sauf que si monsieur habite sur le territoire français, les autorités françaises ne vont pas reconnaître ce jugement algérien. Donc le problème qui va se poser, et souvent on vient nous voir, j'allais presque dire après coup, mais c'est souvent trop tard, c'est qu'on a des personnes qui vont en Algérie, qui engagent une procédure de divorce et qui obtiennent un jugement de divorce. C'est un jugement qui n'est pas valable sur le territoire français.
Plus souvent les hommes que les femmes.
En règle générale, ce sont les hommes. C'est-à-dire que souvent, on nous dit, maître, je pars 15 jours en vacances, ils reviennent avec un jugement. La difficulté, c'est que vous aurez un jugement, en Algérie, alors, qui sera valable sur le territoire algérien. Mais si votre vie de tous les jours, Zora, c'est sur le territoire français, si vous envisagez de demander une pension alimentaire, ça se passera sur le territoire français. Il vaut mieux obtenir un jugement français puisque votre jugement algérien n'aura pas de valeur sur le territoire français. Donc c'est toute la difficulté.
Ce que je voulais faire, c'est dans le but d'avoir mon divorce en Algérie. L'essentiel, le plus important, c'est que je ne suis plus sa femme en Algérie. Mais ici en France, moi, ça prendra le temps qu'il faut.
Ouais, mais vous comprenez bien, c'est-à-dire que quel est le jugement qui va apparaître sur votre acte d'état civil? Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un jugement, que ce soit un jugement algérien ou un jugement français, il faut qu'il soit transcrit. La transcription, ça veut dire que l'administration note sur l'acte de mariage et les actes de naissance des uns et des autres que madame et que monsieur ont bien divorcé tel jour, divorce prononcé par tel tribunal. Alors imaginez deux secondes, dans l'hypothèse où il serait envisagé ou envisageable que votre divorce algérien soit transcrit sur votre acte d'état civil, vous imaginez bien qu'ensuite le divorce français, on ne pourra pas le transcrire puisqu'on vous dira « mais attendez madame, vous êtes déjà divorcée ». Donc, moi, ça me semble toujours dangereux. Je considère que, de par les règles du droit international, vous avez la possibilité de divorcer sur le territoire français. Bon, et une fois que vous aurez votre jugement français, vous pourrez faire en sorte qu'il apparaisse et qu'il soit applicable sur le territoire algérien. Mais là, vous risquez d'avoir deux jugements, en plus deux jugements qui, très souvent, ne disent pas la même chose. Vous voyez, vous n'aurez pas, par exemple, le même montant concernant la pension alimentaire. Vous n'aurez peut-être pas la même organisation du droit de visite et d'hébergement concernant les enfants. Donc, quand on a deux jugements, un rendu par les autorités algériennes, un rendu par les autorités françaises, après, c'est un casse-tête. Et d'ailleurs, votre raisonnement est assez curieux, comme le relevé Philippe. En règle générale, ce sont les hommes qui se précipitent pour aller divorcer au pays.
Ah ben là, c'est le contraire. C'est,
bah
le
cas, oui.
C'est
moi qui te précipite. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de votre mari, c'est ça?
Ça ne peut plus durer.
Voilà, c'est ça.
Mais
c'est ça.
Votre vie de tous les jours,
j'entends. C'est suffisant.
Mais Zora, votre vie de tous les jours, elle est en France, elle n'est pas en Algérie.
Oui.
Donc le fait de divorcer en Algérie, ça changera quoi?
Je pense que ça devient un problème psychologique.
Oui, c'est psychologique pour vous.
Le problème d'être toujours attaché au nom de ce monsieur.
Mais vous serez attaché en France.
Ni moins ni plus. Hein.
Non, mais j'entends bien. Mais qu'est-ce qui fait que le divorce algérien va vous apaiser alors que vous serez toujours marié, en tout cas pour l'instant, en France? Comprenez ce que je veux dire? Ça, je peux le comprendre si vous étiez, enfin, si vous viviez à plein temps en Algérie ou si monsieur était particulièrement pénible en Algérie, mais être divorcé en Algérie, mais toujours marié en France puisque la procédure va continuer, est-ce que psychologiquement, ça va vous apaiser?
Voilà, pour moi, je suis divorcée de lui. Reste en France, je dis, c'est de l'administration, c'est ça?
Ouais, mais c'est la même chose. Vous habitez en France, vos centres d'intérêt sont dans ce pays. Je le redis, votre jugement algérien, alors oui, ça va peut-être vous faire plaisir, mais dans la vie de tous les jours et concrètement, un, ça va pas changer grand-chose, mais pire, ça peut empirer les choses, puisque demain après-demain, vous allez vous retrouver avec deux jugements rendus par deux pays différents. Et je vous dis, il faut faire attention, parce que parfois, c'est un casse-tête après.
Ouais, d'accord, ben je veux revoir ça avec...
Ouais, réfléchissez bien. Vous en avez parlé avec votre avocat?
J'ai parlé avec l'avocate d'Algérie, donc elle m'a dit que le divorce se fait en 2 mois. Après, ici en France, non, elle m'a dit, par rapport aux dates, ça prend du temps.
Non, mais
j'ai pas parlé avec elle.
Voilà, ça c'est vrai. Voilà ce que j'allais vous dire. Non, mais que l'avocat algérien vous dise, oui, ça va vite. Bon, c'est normal. L'avocat algérien, il va avoir un dossier, donc il va pas vous dire, attention, vous risquez d'avoir des complications sur le territoire français. Donc ça, je peux l'entendre et le comprendre. Donc c'est pas l'avocat algérien qui va vous inviter à bien réfléchir. Mais posez la question à votre avocat en France quand même. Dites-lui que vous envisagez une procédure en Algérie. Vous verrez sa réponse. Mais a priori, ce sera la même que la mienne. Alors oui, le divorce est un peu plus long sur le territoire français. Et là, encore une fois, c'est quand même votre avocat qui a demandé le renvoi. Alors peut-être pour une bonne raison. Hein, je critique pas cet aspect-là. Mais pour éviter
par rapport à la demande de monsieur, parce qu'il veut pas, son avocat, il veut pas, il a dit que monsieur ne veut pas, il est pas d'accord pour divorcer, pour un divorce pour faute. Il veut un divorce
non
à l'amiable.
Madame, peu importe, dans la plupart des divorces, vous savez, c'est rare quand monsieur et madame, en tout cas quand les avocats disent, il y a madame qui veut divorcer, monsieur dit, oui, ok, moi aussi je veux divorcer. Que l'avocat de monsieur n'accepte pas les conditions dans lesquelles vous envisagez de divorcer, en vérité, on s'en fout. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est justement le juge qui va statuer. Donc, si vous attendez d'avoir un éventuel accord avec la partie adverse, votre affaire risque d'être renvoyée X fois. Donc, faut faire attention à ça.
D'accord. Ouais. Ok. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Bon courage à vous.
Bonne journée.
Merci.
Merci. Beaucoup. Au revoir. Merci.
Bien, mais on le voit, hein, il y a toujours l'aspect psychologique et l'aspect juridique. Alors, on a Leïla qui est avec nous au 01 53 48 3000. Leïla, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Leïla.
Oui, bonjour. Moi, avant de poser ma question, j'ai envie juste de dire à Maître Serran que Monsieur Philippe, c'est un grand maestro, comme il avait dit au début de l'émission, mais c'est un vrai pilier de BORAFM. Moi, j'écoute presque quand je peux toutes les émissions. Ben, je vous remercie.
Voilà, le samedi, c'est vraiment un jour magnifique. Et grâce à vous, Leïla, alors là, c'est Noël avant Noël.
Ah là là, franchement, Toutes les émissions sont très intéressantes, que ce soit AVS sur la santé, sur tout. J'apprends beaucoup. Pourtant, je suis dans le domaine de la santé, mais j'apprends beaucoup de vous.
Bon,
ben, et des invités qui viennent, bien sûr.
Ben, c'est, d'abord, c'est parce que c'est grâce à des invités. Et je vais vous dire, on a la chance sur Beurre FM de prendre le temps avec des gens qui sont surprenants, mais des gens de qualité qu'on écoute, qui sont des puits de science.
Exactement. Donc. Et donc, la qualité qui est là.
Voilà. Et moi, je veux vous dire, je me régale tous les jours. Et le samedi, quand je vois arriver Maître Serran, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, Leïla.
Bon, bah, exactement.
On termine la semaine en beauté. Bon, c'est ce que vous voulez dire.
Vous avez mérité de poser votre question, Leïla. Allez-y.
Ben, merci beaucoup. Moi, je voulais juste savoir, enfin, quelle est la démarche pour faire venir ma nièce. Elle a 11 ans en Algérie. Moi, j'ai qu'une fille ici en France et j'ai envie de, enfin, de la faire venir. Est-ce que c'est possible?
Alors, votre nièce, même si la question peut sembler curieuse, j'imagine qu'elle a des parents.
Oui, tout à fait.
Alors, quand c'est comme ça, vous comprendrez aisément qu'on considère que dans le cercle familial, la priorité est donnée aux parents. Donc, la faire venir, entre guillemets, seule comme ça, ça va poser difficulté. Il faudrait passer... par ce qu'on appelle une kafala, c'est l'équivalent voilà d'une adoption. Vous en avez peut-être entendu parler.
Oui, oui.
Même, voilà. même si les parents sont
vivants, on a beaucoup de kafala où alors les parents sont convoqués, enfin les parents biologiques, l'intéressé est convoqué et puis on constate que les parents sont prêts entre guillemets à permettre. J'allais dire l'adoption, même si c'est pas le terme approprié. Et à partir du moment où vous avez cet acte de kafala, il peut se passer deux choses sur le territoire français. Et là, c'est assez surprenant. Parce qu'on considère normalement que la kafala étrangère est, ou devrait être en tout cas, applicable de plein droit sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on devrait considérer que les autorités françaises reconnaissent cette kafala. Puisque en droit on dit que ça concerne l'état des personnes, donc puisque voilà ça concerne précisément et vous-même et votre nièce. Sauf que beaucoup d'administrations françaises compliquent la vie à nos clients et pour éviter de se voir compliquer la vie, il faudra une fois que vous aurez votre kafala sous le coude engager une procédure d'exéquature. L'exéquature, donc ce terme barbare, en fait ça signifie quoi? Ça signifie que le juge du tribunal judiciaire de votre lieu de résidence va reconnaître ce jugement.
Alors, Leïla, on va revenir sur le cas de votre petite nièce de 11 ans dans un instant. Vous restez en ligne. Et si vous avez des questions à poser à Maître Serran, Leïla, vous raccrochez pas. Vous restez là, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Maître Serran, on est un peu tributaire des pubs hein, aujourd'hui.
Ouais,
donc,
voilà. Aujourd'hui, oui, c'est un peu...
On nous oblige, on nous oblige à raccrocher. Hein. On est avec Leïla qui nous appelle pour sa nièce qui a 11 ans, qu'elle veut faire venir d'Algérie. Vous lui expliquez, Maître Serran, ce matin, justement, quelles sont les procédures de la kafala.
Alors, première étape, donc cette fameuse kafala à obtenir dans le pays d'origine. Deuxième étape, une fois que vous avez cette kafala, l'exéquature. Encore une fois, on en était là, l'exéquature, c'est demander à un juge français de reconnaître cette kafala. Et à partir du moment où vous avez cette exéquature, en fait, l'exéquature, ça, aux yeux des autorités françaises, on va considérer que cet enfant est votre enfant biologique. Voilà, donc vous serez officiellement sa maman. Et à partir du moment où on considère que vous êtes officiellement sa maman, vous aurez la possibilité de faire venir votre nièce sur le territoire français.
D'accord. Et du coup, ce que j'ai bien compris, il n'y a aucune démarche à faire. À part demander la kafala, il n'y a pas une démarche.
Mais non. Ça, on peut le comprendre, madame. Vous imaginez bien que faire venir une enfant... Alors, encore une fois, voilà... On est dans la légalité, hein. Je vous demande pas de la faire venir sur un bateau et d'arriver sur le territoire français.
Bien mais sûr, non.
Voilà,
non,
on parle de choses, voilà, très carrées. Oui. Mais on peut le comprendre, c'est-à-dire que les autorités françaises ne peuvent pas admettre, et d'ailleurs c'est pas prévu dans la loi, de faire venir un enfant, encore une fois, en dehors de cette procédure particulière, alors que ses deux parents, ou même ne serait-ce que l'un d'entre eux, serait vivant, et voilà, et donc on considère qu'il y a une priorité. C'est d'abord la maman biologique avant tout. Donc en dehors de ça, non, il y a pas d'autre option.
Okay.
Mais la kafala, ça va vite hein, au pays. Par contre, l'exéquature, il faut compter...
Oui, c'est ça le délai.
Ouais, il faut compter une année à peu près hein, pour l'exéquature. Ah, mais la kafala, ça va vite.
D'accord. OK. Merci beaucoup.
Merci à vous, Leïla.
Merci, Leïla. Gros bisous.
Merci. Au revoir.
Avec plaisir. On accueille Yamina qui est avec nous. Yamina, bienvenue.
Allô?
Allô? Yamina.
Oui, bonjour. Bonjour, Mesteran.
Bonjour, Yamina.
Bonjour, Philippe.
Bonjour, Yamina.
Voilà, moi, je voulais vous poser une question. C'est plutôt ce qui me tracasse en ce moment. Je viens de faire une demande pour ma retraite.
Oui.
Et je n'ai pas tous les documents, notifications, tout ça. À quel moment je dois prévenir mon employeur?
Alors, le prévenir pour lui dire quoi?
Que vous voulez partir en retraite.
Oui, c'est ça.
Bah, j'allais dire le plus tôt possible. C'est un projet. C'est prévu pour quand, a priori?
1er février.
Ah, bah oui, là, vous ne l'avez pas encore prévenu?
Non.
Et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de pas le prévenir? Bah, je veux dire, dès maintenant, pour essayer de formaliser tout ça?
Bah, c'est-à-dire que, comme je n'ai pas de notification, qu'ils n'arrêtent pas de me demander des papiers. Je connais pas le montant, donc si ça me convient pas, ben je vais pas là-dedans. Enfin, je vais peut-être pas la prendre.
Il y a des sites maintenant qui permettent des simulations pour voir à partir du moment où vous décidez de prendre votre retraite pour voir ben, de combien vous pourrez disposer. Est-ce que vous avez été sur ces sites-là?
Non, j'ai pas été. Franchement, en plus, je suis pas tellement.
Il faut alors. Si ce n'est pas vous, peut-être un membre de votre entourage, mais maintenant le gouvernement a mis en place, hein, il y a des sites officiels très sérieux où vous pouvez évidemment faire une simulation pour voir en fonction de la période, de l'âge du départ à la retraite, qu'est-ce qui entre guillemets sera versé toutes les fins de mois. Donc il faut peut-être tester ça.
Vous êtes dans quel secteur d'activité?
Moi, je suis AESH. Je m'occupe d'enfants porteurs d'handicap.
D'accord. Vous avez une convention collective ou pas?
Oui, j'ai une convention collective. Ouais. Oui, mais
faut regarder dans la convention collective. Hein, souvent, dans la convention collective, vous avez des recommandations qui sont faites.
C'est vrai, on a parfois ça dans certaines conventions.
Mais si je les préviens un mois à l'avance, c'est pas suffisant?
Non, mais c'est pas suffisant, madame. Ouais, c'est ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire, d'abord, ce serait peut-être intéressant pour vous, avant de dire je formalise ou pas, de savoir si financièrement ce qui vous reviendra pour cette retraite, est-ce que ça peut éventuellement vous convenir ou pas?
Ben ouais, c'est pour ça que je voulais pas leur envoyer ma lettre, parce qu'une fois que c'est envoyé, une fois que vous partez.
C'est ce qui fait que ce serait peut-être intéressant, avant de formaliser cet aspect-là, j'ai entre guillemets le grand 1, voir dans ces, je le redis, en utilisant ces sites de simulation, quel montant vous sera alloué. Après, en fonction de ça, si ça vous intéresse pas, ou si vous voulez décaler, bon, ça sert à rien de sonner le clairon et de prévenir tout le monde. Mais si ça vous intéresse, à ce moment-là, oui, il faudra prévenir, j'allais dire, au plus vite votre employeur. Mais
vous pensez qu'à un mois et demi, ça suffit?
Ah non, ça me semble juste. Après, je sais pas, comme disait légitimement Philippe, vous avez des dispositions qui s'appliquent aussi en fonction des conventions collectives. Donc, ce serait pas sérieux de ma part de dire que c'est un timing qui serait raisonnable. Selon moi, comme ça, spontanément, mais j'ai pas de texte sous les yeux, ça me semble un peu limite, hein, un peu court quand même.
Ah bon?
Et puis les conventions collectives, vous pouvez, pareil, je crois comprendre que vous n'êtes pas une amoureuse d'Internet, mais vous pouvez y accéder également sans difficulté. Ce serait bien peut-être de vérifier ça, mais...
Et de lire son contrat de travail, parce que parfois, il y a des dispositions...
Mon contrat de travail, c'est un CDD, alors. C'est pas un CDI, hein.
Ah, vous avez un CDD?
Mais alors c'est quoi? C'est un CDD qui est renouvelé systématiquement? C'est quoi?
Oui, tous les 3 ans.
Tous les 3 ans.
Mmh.
Bon, il faudrait peut-être jeter un œil dans ce cas-là sur la convention collective. Bon, il y a de facto une convention collective qui régit votre activité, mais ça vaudrait le coup effectivement de vous pencher là-dessus. Alors c'est parfois un peu compliqué. Alors prenez le temps, faites-vous conseiller, mais ça vaudrait le coup de regarder.
Mais est-ce que ça peut me porter quel préjudice ça peut me porter de les prévenir que dans 4 semaines.
Mais vous serez peut-être pas dans le timing, c'est-à-dire qu'il faut qu'une société, madame, mais légitimement, ça, c'est comme quand vous voulez quitter une boîte, il faut, il y a un préavis à respecter. Après, je sais pas si vous êtes dans le timing ou pas. Ouais, mais c'est normal. C'est-à-dire que si moi je suis patron et puis j'ai l'un de mes employés qui me dit bah voilà, dans 15 jours ou dans un mois je pars, alors que j'ai peut-être un texte qui dit que je dois être prévenu n'importe quoi dans un délai de 2 mois, 3 mois, enfin peu importe. Donc c'est quand même normal de faire en sorte, en tout cas, d'être carré. Donc ça vaut le coup de vérifier, vous savez, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Si effectivement il n'y a pas de disposition particulière sur votre contrat de travail, la convention collective, elle apparaît hein, sur votre fiche de paye. Généralement, c'est en haut à gauche, et puis vous allez sur Internet, vous regardez ça, et vous aurez toutes les disponibilités. Mais moi, je vous savez, le droit se construit comme ça. C'est aussi normal de prévoir un certain timing, un certain délai pour dire je vais informer mon employeur. J'ai envie de partir à la retraite. J'ai envie de quitter le poste. Enfin voilà, indépendamment du droit, c'est la bienséance.
Excusez-moi, mais sur Google, j'ai regardé vite fait. C'était 1 mois apparemment si on était en CDI, je crois. En CDI, et dans 2 mois si on était en CDI, et 1 mois si on était en CDD. Alors, c'est pour ça que c'est très compliqué.
Ouais, mais vous avez rajouté le terme apparemment. Donc, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais selon moi, je le redis, quel que soit le secteur d'activité, en tout cas dans les secteurs d'activité où il existe une convention collective, la convention collective, c'est ce qui va organiser, structurer votre activité, votre profession. Donc, il faut aller à la source. Et la source, avant tout, c'est ça. Et je vous le redis, parce qu'en plus, vraiment, les conventions collectives, maintenant, on les a directement sur Internet. Vous allez sur le site du gouvernement et vous tapez le nom de votre convention collective et vous aurez l'information. Donc, je crois qu'il vaut mieux avoir l'information à la source.
Si ça se trouve, il n'y a pas de disposition dans votre convention collective.
Non, voilà. Après,
c'est juste
pas...
vérifier bien sûr. Qu'il y a ou pas une disposition.
Mais Philippe a raison. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de disposition, après, je le redis, c'est une histoire de courtoisie. Vous le préviens un petit peu à l'avance. Mais vérifiez quand même pour pas être mis en porte-à-faux.
En porte-à-faux par rapport à la caisse de retraite ou par rapport à mon employeur?
Par rapport à l'employeur, madame, on peut pas, pardonnez-moi pour l'expression, mais chier sur l'employeur et lui dire je pars demain. Enfin, ouais. Ça, on peut le comprendre. Indépendamment du droit, le droit, c'est aussi de la courtoisie. C'est normal de prévenir son employeur et de lui dire, quelle que soit la raison, je vais vous quitter, il y a un délai à respecter, je pars à la retraite, il y a peut-être un délai à respecter. Enfin, sauf si votre employeur, voilà, vous le détestez, vous voulez lui compliquer la vie. Mais c'est, en plus, ce sont des vérifications que vous pouvez faire tranquillement.
Non, je déteste pas mon employeur. Au contraire, de partir à la retraite, ça m'ennuie un petit peu. Mais bon,
vérifiez d'abord, puisque vous n'avez pas l'air sûr. Calculez d'abord le montant de ce que vous allez percevoir. C'est ça qui est important. Parce que si ça vous convient pas.
Parce que le montant, en fait, je l'ai déjà calculé. Ça, c'est calculé. Ouais,
ça fait un quart d'heure qu'on parle de ça. Je vous parle de site. Vous me dites, je sais pas. Et là, vous me dites, il est calculé.
Non,
moi, si je suis votre employeur, je vais vous dire, écoutez, vous pouvez me quitter.
On reçoit un relevé de carrière tous les ans.
Pardon?
Tous les ans, enfin, à partir d'un certain âge, on reçoit un relevé de carrière.
Un relevé de carrière.
Voilà, donc j'ai la somme, mais j'ai pas la complémentaire.
Mais c'est ce que mais ce qui vous intéresse, c'est quand même de savoir, quand on additionne les deux, combien ça va vous faire.
Ouais, mais l'autre chose, c'est des papiers qui sont à répétition, on n'arrête pas. Enfin, c'est très embêtant, quoi. C'est pour ça que quitter mon travail avec cette somme, c'est vraiment délivrant.
Légitimement, et évidemment, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, il y a des sites qui vous permettent de mettre toutes ces données, ou alors faites-vous assister par une personne qui est peut-être un peu plus aguerrie à ce genre de procédure. Mais c'est quand même important, voilà, comme ça vous saurez le montant exact. Et ensuite, voilà, vous prenez votre décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, jetez un œil sur la convention collective pour voir s'il y a une disposition particulière qui prévoit un timing à respecter. Et comme disait très justement Philippe, peut-être qu'il n'y a pas de disposition particulière prévoyant un timing à respecter. Bah, dans ce cas-là, voilà, vous serez tranquille. Il n'y a pas faut pas venir le lundi et dire demain je pars à la retraite. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Mais s'il n'y a pas un timing précis, bon, bah vous serez peut-être un peu plus tranquille. Mais moi, ça me semble normal. Encore une fois, quand on travaille au sein d'une société, parfois même d'être un peu plus royaliste que le roi. C'est-à-dire si voilà, ça s'est bien passé, si l'entente est cordiale, de prévenir. Je le redis, ça c'est pas du droit, mais ça s'appelle la courtoisie, de prévenir sa direction, de prévenir le patron et de dire bon, bah voilà ce que j'envisage.
Est-ce que votre remplaçante, elle est déjà là ou pas?
Ah non, pas du tout.
Mais non, parce qu'après il faut recruter. Enfin, voyez, c'est pour un employeur, c'est quand même du jour au lendemain, un mois pour recruter, prendre quelqu'un qui va vous remplacer. Ça peut parfois être court, un mois.
Ouais, mais bon, nous on n'a pas aussi tous les éléments. Voilà, une fois que c'est envoyé. Moi, je perds mon travail. Et si ma complémentaire elle me convient pas, moi aussi je me retrouve dans une.
Non mais madame, la situation là, c'est vous qui la choisissez. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité d'accéder à des sites particuliers qui vous permettent de calculer les deux. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai tout dit, non?
D'accord, bon, bah, je vais prendre à la mairie, il y a quelqu'un qui s'occupe de la retraite qui, je pense, va pouvoir m'aider.
Ça, c'est bien.
Après, bah, je vais leur envoyer un courrier. Hein.
Voilà, comme ça, vous aurez bien toutes les informations.
Et après, vous nous rappelez, vous nous direz ce qu'ils vous ont dit.
Là, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Rendez-vous le 14, je vais voir. Mais bon,
14 décembre, bon, c'est encore quelques jours.
Oui.
Petite dizaine de
jours.
Oui,
le 14 décembre, j'ai rendez-vous.
Bon. Ça sent la retraite, en tout cas. Le plus dur est fait.
Hein?
Le plus dur est fait, Yamina.
Ouais, enfin, généralement, ouais, après la retraite, il y a un truc là, qui s'appelle... Une caisse en sapin aussi.
Mais vous êtes bête, Matsuran.
Ben non, mais malheureusement, c'est ça. En fait, on profite jamais de notre retraite. Ben c'est ça la difficulté. Ben,
peut-être que Yamina elle veut profiter de sa retraite.
C'est surtout qu'on demande des papiers à répétition.
Ah oui, ça par contre.
C'est pour ça que je dis, parce que moi je ne sais pas ce que j'aurai en complémentaire. Déjà que la retraite, je suis un peu déçue. Mais là, c'est la complémentaire, je les ai encore appelés hier et ils m'ont dit c'est en cours de traitement. Oui, mais j'arrive pas, j'ai pas la somme. C'est pour ça, c'est bien gentil d'envoyer son papier. Une fois qu'il a envoyé, il a envoyé aussi. Hein. Vous perdez votre travail.
Oui, c'est pour ça que le système est quand même bien fait. Vous avez la possibilité d'avoir une vision et de faire ce calcul-là et ensuite de dire je prends ou je prends pas.
Yamina, rappelez-nous après votre rendez-vous. Yamina, on vous fait un gros bisou pour tous ceux qui n'ont pas pu passer
à l'antenne. Gros bisous, merci pour la réponse.
Merci Yamina. Pour tous ceux qui n'ont pas pu parler à Maître Serran, vous pouvez l'appeler sur son téléphone cellulaire. Je vous le rappelle, Maître Serran.
Et je le redis, cellulaire, il n'y a que vous qui utilisez ce terme-là. Mais ce n'est pas grave.
Je sais.
C'est d'accord, vieux bonhomme. Cellulaire. Ok. Donc, je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Alors, il n'y a pas que moi, l'imam Abdelali Mamoun.
Il utilise le terme.
Il utilise aussi le terme cellulaire. Oui, cellulaire. Cellulite et cellulaire, d'ailleurs, il utilise.
je pense que je ne ferai pas de commentaire.
Ah bon, c'est bien la première fois que vous faites pas de commentaire, Imam Abdelali.
Je te laisse dans tes délires avec Maître Serran.
Oh, qu'est-ce qui lui arrive?
Parce que Salhan, ça veut dire celui qui est libéré.
Voilà.
Que... Ah ouais. C'est un homme libéré, Maître Serran. Ouais. Mais vous aussi, vous êtes libéré, Imam Abdelali.
On essaye. Hein? Moi, je suis plutôt rassuré.
Rassuré.
Oui, parce que le mot ma'moun, ça veut dire rassuré.
Bien. D'ailleurs, l'imam...
Salhan, ça veut dire celui qui est libéré.
L'imam rassuré, vous le retrouvez tout à l'heure pour l'islam au présent d'ici une poignée de minutes.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.